Ce qu'on demande d'un berger, c'est qu'il s'occupe de ses brebis. Et c'est, dirons-nous, la moindre des choses. Un bon pasteur s'inquiète d'abord du bien-être de son troupeau et ensuite de lui-même. Il le protège contre les prédateurs, il s'assure qu'il est toujours en sécurité et qu'il a de quoi se nourrir. Il traite ses animaux avec douceur et les soigne quand ils sont malades. Les rois et dirigeants politiques de Juda étaient souvent appelés « bergers », mais ils ne furent pas à la hauteur de leur fonction. Je commence à lire le chapitre 34 d'Ézéchiel. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, prophétise au sujet des bergers d'Israël. Prophétise et dis à ces bergers, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. N'est-ce pas le troupeau que les bergers doivent faire paître? Vous vous êtes nourris de sa graisse et habillés de sa laine. Vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître le troupeau. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui avaient une patte cassée. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient écartées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Non, vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. » Versets 1 à 4. Depuis Salomon, les rois d'Israël tondaient leurs troupeaux un maximum pour en tirer un gain personnel plutôt que de le conduire dans le sentier de la justice, ce qui était le rôle que l'Éternel leur avait assigné. La plupart des rois ne se souciaient pas de leurs sujets souffrants, indigents, opprimés, ou de l'amélioration morale de ceux qui se livraient au mal. Je continue. « Mes brebis se sont dispersées, faute de berger, et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages. Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Elles ont été dispersées sur toute l'étendue du pays, sans que personne en prenne soin ou aille à leur recherche. » Verset 5. « Des conquérants païens ont attaqué Israël, et le royaume des 10 tribus du Nord avait été déporté par les Assyriens, et Juda par les Babyloniens. Des Israélites avaient fui en Égypte, et ceux qui restaient au pays devaient se débrouiller comme ils pouvaient. » Je continue plus loin. « Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais m'en prendre à ces bergers, je leur redemanderai mes brebis, et je leur enlèverai la responsabilité du troupeau. Ainsi, ils cesseront de se repaître eux-mêmes. Je délivrerai mon troupeau de leur bouche, et elles ne leur serviront plus de nourriture. » Verset 10. Cette menace s'était accomplie envers plusieurs rois, dont Sédécias, qui fut le dernier. Je continue en compressant. « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. Comme un berger va à la recherche de son troupeau le jour où il les trouve dispersés, je les ferai sortir de chez les peuples et je les rassemblerai des divers pays. Je les ramènerai dans leur propre pays. » Versets 11 à 15. À partir d'ici, les messages d'Ézéchiel consistent principalement en paroles de réconfort. L'Éternel, le vrai berger, va intervenir afin de mettre fin à la triste situation de son peuple et le ramener chez lui. Cette prophétie concerne le retour de l'exil babylonien, mais surtout la fin des temps lorsqu'après la grande tribulation, tous les Juifs dispersés par les persécutions de l'Antéchrist reviendront dans leur patrie et entreront dans le millénium. Jésus a déclaré « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et encore, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Fin de citation. Jésus est le bon berger, le grand berger et le souverain pasteur, le chef des bergers. Je continue le texte. « Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je ramènerai celle qui se sera éloignée. Je panserai celle qui a une patte cassée et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celle qui est grasse et forte. Je les ferai paître avec équité. » Verset 16. La brebis grasse et forte représente les Israélites riches et puissants qui ont exploité les plus faibles. À la fin des temps, ils seront écartés du troupeau de Dieu, tandis que le souverain pasteur guérira toutes les misères des brebis qui lui appartiennent. Une fois, Jésus a demandé à ses disciples, « Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée ?» Le bon berger ne se contente pas de 99 brebis. Il s'inquiète pour celle qui manque. Si le croyant entre dans le royaume des cieux, ce n'est pas parce qu'il est une super brebis, car elles sont toutes stupides. Non, s'il entre dans le paradis, c'est grâce à son berger qui est fidèle et qui ne perdra pas en route une seule de ses brebis. Je continue le texte en comprimant. « Et vous, mon troupeau, voici ce que le Seigneur, l'Éternel, déclare. Je prononcerai mon jugement entre brebis faibles et brebis grasses, bélier et bouc. Vous avez bousculé du flanc et de l'épaule toutes les brebis faibles. Vous les avez frappées de vos cornes jusqu'à ce que vous les ayez chassées dehors. C'est pourquoi je viendrai au secours de mon troupeau, et il ne sera plus livré au pillage. Je prononcerai mon jugement entre brebis et brebis. » Versets 17, 21 à 22. La justice sociale est un thème fréquemment abordé par les prophètes. Ceux qui en Israël détenaient le pouvoir ne se contentaient pas de profiter des biens du pays, mais ils en privaient aussi les faibles, qui avaient pourtant droit aussi bien qu'eux. Les impies se reconnaissent au fait qu'ils piétinent les pauvres. Mais Dieu opérera un tri. Ce passage anticipe le jugement entre les brebis et les boucs, le bon grain et l'ivraie dont Jésus a parlé dans ses paraboles. Je continue. J'établirai à leur tête un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il prendra soin d'elles et sera leur berger. Verset 23. Il s'agit du Messie de la lignée de David qui régnera sur tous les Israélites rescapés de la grande tribulation. Il rétablira la royauté et l'unité primitive, politique et religieuse du peuple élu. David est le père fondateur de la dynastie qui porte son nom et la figure du grand roi futur promis à Israël. Jésus est ce roi messianique et il portera le nom de David comme titre dynastique de la même manière que les monarques égyptiens s'appelaient Pharaon. Je continue. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. « Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Verset 24. Le mot « prince » peut aussi désigner le roi messianique Jésus-Christ, ce que confirme un passage parallèle où il est dit « Mon serviteur David sera leur roi. Il sera l'unique berger pour eux tous. » Fin de citation. Je continue le texte d'Ézéchiel. « Je conclurai avec les brebis une alliance qui leur garantira la paix. » Je débarrasserai le pays des bêtes féroces, de sorte que mes brebis pourront habiter en toute sécurité dans les steppes et dormir dans les forêts. Verset 25. Dieu conclura une alliance nouvelle et éternelle qui sera en vigueur pendant le règne messianique. L'Éternel s'engage à protéger son peuple contre les nations païennes qui jadis ravageaient le pays. Même les forêts, l'endroit généralement le plus dangereux pour une brebis, seront paisibles. Il n'y aura donc plus aucun danger nulle part. Je continue. Je les comblerai de bénédictions dans les environs de ma colline. Je ferai tomber la pluie en son temps. Ce seront des pluies qui vous apporteront la bénédiction. Verset 26. La colline de Sion sur laquelle est bâtie Jérusalem représente le lieu de la présence divine. La fertilité de la Palestine dépend des deux saisons de pluie en octobre-novembre et en mars-avril. Dieu enverra des pluies de bénédiction et non des tempêtes qui détruisent tout sur leur passage. Je continue le texte plus loin et finis ce chapitre. Vous, mes brebis, vous qui faites partie du troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes et moi je suis votre Dieu, le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Verset 31. Dieu rappelle aux Israélites leur faiblesse pour bien leur faire sentir toute la bonté qu'il manifeste à leur égard en les appelant ses brebis et en se proclamant leur Dieu. Lors de sa première venue, le Christ a été rejeté par les Juifs, ce qui leur a attiré une nouvelle série de calamités qui durent toujours. Et ce ne sera qu'à la fin de la grande tribulation, quand le nouvel Israël se soumettra au sceptre du nouveau David, qu'il recevra toutes les bénédictions promises. Mais avant qu'Israël ne soit restauré, Dieu doit juger le monde païen, ce qui est décrit dans le chapitre 35 que je commence à lire. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, dirige ton regard en direction du mont Séir et prophétise contre lui et dis-lui. » Le Seigneur l'Éternel dit ceci, « Je vais m'en prendre à toi, montagne de Séir. Je vais étendre ma main contre toi, te transformer en une terre dévastée et désolée. Je mettrai tes villes en ruine, tu seras dévasté et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Puisque tu as sans cesse nourri de la haine contre les Israélites et que tu les as livrés à l'épée au temps de leur détresse, au jour où leur péché a été puni, à cause de cela, aussi vrai que je vis, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel, je te mettrai en sang, le sang te poursuivra. » Versets 1 à 6. Le mont Séir est synonyme du royaume d'Édom qui se trouvait dans la vallée et sur les flancs de deux chaînes de montagnes allant du sud de la mer Morte au nord du golfe d'Aqaba qui est le bras oriental de la mer Rouge. Édom était le frère ennemi et jumeau de Jacob, le père de la nation d'Israël. Cependant ici, la montagne de Séir représente l'ensemble des nations hostiles à l'Éternel et à son peuple et sert de contraste à Israël glorifié. Je continue plus loin en compressant. « Parce que tu as dit, ces deux nations, Israël et Juda, de même que leurs deux pays seront à moi et j'en prendrai possession bien que l'Éternel y réside, tu as dit, les voilà dévastées, elles me sont livrées comme une proie à dévorer. » Versets 10 à 12. Maintenant que les royaumes des 10 tribus du Nord et de Juda ont été détruits, le premier par les Assyriens et le second par les Babyloniens, les Édomites veulent s'approprier leur territoire. Mais ce serait usurper l'Éternel, le vrai propriétaire du pays de Canaan. Profanes comme leurs ancêtres, les Édomites étaient des brutes épaisses qui ne voyaient que le côté matériel des choses. Je continue plus loin et finis ce chapitre. « Puisque tu t'es réjoui de la dévastation du patrimoine d'Israël, je te ferai de même. Tu seras dévasté, montagne de Séir et Édom tout entier, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. » Verset 15. Pétra, la capitale d'Édom, existe toujours, mais elle est déserte et sert de repère aux animaux sauvages. Ce qui est arrivé à Édom est une leçon pour le monde entier. Dieu jugera les nations selon la façon dont ils auront traité Israël. Nous arrivons au chapitre 36, qui est le pendant positif du chapitre 6, qui annonçait la destruction de Juda. Je commence à le lire en compressant. « Et toi, fils d'homme, prophétise, parle aux montagnes d'Israël et dis. Parce que l'ennemi s'est écrié sur vous, ha ha, ces antiques auteurs nous sont têchus en possession. Voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau, aux vallons, aux ruines désolées et aux cités abandonnées qui ont été pillées par les nations des alentours et qui sont devenues l'objet de leur sarcasme. Oui, dans l'ardente indignation de mon amour que tu as bafoué, je vais adresser des menaces au reste des nations et à Édom tout entier, car le cœur tout joyeux et le mépris dans l'âme, ils se sont tous attribués mon pays comme possession pour en piller les pâturages. À cause de cela, va, prophétise sur le pays d'Israël, j'en ai fait le serment. Les nations d'alentour seront chargées aussi du poids de leur opprobre. » Versets 1 à 7. Quand Dieu jugera le monde, il le videra de ses habitants, car il ne permettra pas que les hommes iniques entrent dans le royaume messianique. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Cette promesse s'accomplira lorsque Jésus reviendra établir son règne. Je continue en compressant. Tandis que vous, montagne d'Israël, vous serez de nouveau cultivés et ensemencés, et je multiplierai sur votre sol les hommes, la communauté d'Israël dans sa totalité. Les villes seront habitées, les ruines seront rebâties. Versets 8 à 10. Les descendants dispersés des royaumes des 10 tribus du Nord et de Juda seront ramenés au pays. Le retour d'exil a vu un accomplissement partiel de cette prophétie puisque la Judée et la Galilée furent repeuplées. Je continue. Je ferai abonder sur vous les hommes et les bêtes. Ils seront très nombreux et se multiplieront. Je vous repeuplerai comme vous l'étiez autrefois et je vous ferai plus de bien qu'auparavant et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Verset 1. Cette multiplication des habitants rappelle ce qui s'est passé en Égypte et confirme la promesse faite par l'Éternel à Abraham. Dieu s'était d'abord révélé en jugeant sévèrement son peuple. Maintenant, c'est en le rétablissant. Je continue le texte. « Je ferai parcourir votre sol par des hommes de mon peuple Israël. Ils te posséderont, ô pays d'Israël. » Et tu seras leur patrimoine, et tu ne les priveras plus de leurs enfants. Eh bien, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne priveras plus ton peuple de ses enfants. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Versets 12 et 14. Quand la Palestine est bénie par Dieu, c'est un jardin d'Éden, mais l'inverse est tout aussi vrai. Si la pluie manque, c'est la famine. Et si des conquérants venus du nord ou du sud la traversent comme ce fut souvent le cas, c'est la destruction. Les bénédictions promises ne s'accompliront pleinement que dans le royaume messianique. Je continue le texte plus loin en compressant. Fils d'homme, lorsque les gens de la communauté d'Israël habitaient dans leur propre pays, ils l'ont souillé par leur manière de vivre et leurs actes. Je les ai condamnés comme le méritaient leur conduite et leurs actes. Et lorsqu'ils sont arrivés chez les nations parmi lesquelles ils ont été bannis, ils m'ont déshonoré, moi qui suis saint. C'est pourquoi, dis à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, si je vais intervenir, ce n'est pas à cause de vous, mais je le fais, ô communauté d'Israël, mais c'est par égard pour moi-même. Si je vais intervenir, ce n'est pas à cause de vous que je le fais, ô communauté d'Israël, mais c'est par égard pour moi-même. Versets 16 à 22. Après s'être adressé aux montagnes et à la terre d'Israël, Dieu parle maintenant au peuple lui-même. Son attitude coupable et le châtiment qui en a découlé ont jeté le discrédit sur l'Éternel et ont bafoué son nom. En effet, pour les païens, l'exil d'Israël signifiait l'incapacité de Dieu à protéger son peuple contre ses ennemis. Je continue plus loin. « Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple. Et moi, je serai votre Dieu. Versets 24 à 28. Dans ces quelques lignes se trouvent de grandes doctrines du Nouveau Testament. Conversion, repentance, pardon des péchés, régénération, nouvelle naissance, don du Saint-Esprit, la bonne disposition du croyant à l'égard de Dieu et son désir de lui obéir. La transformation intérieure des Israélites, comme de tout fidèle, est l'œuvre du Saint-Esprit, représenté par l'eau pure qui lave l'homme de ses souillures. Dans le millénium, l'Éternel renouvellera son alliance avec Israël par son esprit et il n'y aura plus d'obéissance légaliste à une loi, comme c'était le cas, mais ce sera une obéissance de cœur. Je continue le texte. « Je vous délivrerai de toutes vos impuretés. Je commanderai au blé de pousser. Je le ferai abonder. » Et je ne vous enverrai plus la famine, je multiplierai les fruits des arbres et les récoltes des champs pour que, jamais plus, les nations ne se moquent de vous parce que vous souffrez de la famine. Versets 29 et 30. Les nations disaient des Israélites, c'est un peuple d'affamés. En effet, ils devaient souvent chercher leur pain en Égypte car ils subissaient des famines à répétition par manque de pluie, la sécheresse, étant un châtiment de Dieu à cause de leur idolâtrie endémique. Je continue. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise conduite et de vos actes peu louables, et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Verset 31. L'œuvre du Saint-Esprit suscitera chez les Israélites une véritable prise de conscience de leurs fautes et une profonde repentance. Je continue. Mais sachez-le bien, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, le Seigneur l'Éternel le déclare. Ô communauté d'Israël, ayez honte de votre conduite et rougissez-en. Verset 32. Voici un rappel salutaire. Ces bénédictions ne dépendent pas de l'attitude des Israélites, mais de Dieu qui les accorde dans le but d'honorer son nom. Je continue. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de tous vos péchés, je repeuplerai vos villes et l'on rebâtira ce qui est en ruine. Verset 33. Ces paroles rappellent la relation étroite entre le renouvellement spirituel du peuple et la splendeur de son pays. Je continue. Alors, les nations qui auront subsisté autour de vous reconnaîtront que c'est moi, l'Éternel, qui ai rebâti ce qui était démoli et replanté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, je l'ai promis, et je le réaliserai. Verset 36. Nouveau rappel salutaire. C'est Dieu qui fait tout, aussi bien dans le cœur de l'homme que dans son environnement. Je finis le chapitre 36. Les villes, aujourd'hui en ruine, seront remplies de troupeaux d'hommes, tout comme Jérusalem, qui lors de ses fêtes cultuelles fourmille d'animaux consacrés, et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Verset 38. Le retour de l'exil a été un petit pas vers l'accomplissement de ses promesses. Israël rentra dans son pays, purifié de son idolâtrie. Mais le peuple ne s'est pas réellement converti à l'Éternel et de nouveaux jugements le frappèrent. Cependant, un jour viendra où la grâce reprendra ses droits et les promesses de Dieu s'accompliront pleinement, d'abord pour Israël, et à travers lui, pour le monde entier.